Radio Foot International, spécial UEFA Euro 2024 avec Annie Gasnier.
Bonsoir à tous et merci d'être au deuxième rendez-vous de la journée de Radio Foot International sur la radio mondiale. Et avec cette belle qualification de la Turquie en quart de finale de l'Euro, en éliminant l'Autriche, l'une des favorites pourtant de la compétition. Les Turcs avaient pris l'avantage tôt dans le match, ils l'ont préservé. Et pour la troisième fois de leur histoire, ils se retrouvent parmi les meilleures équipes d'Europe. Les Oranges, eux aussi, en quart de finale après leur victoire sur la Roumanie grâce aux trois buts signés Gakpo et Malen. Les Pays-Bas joueront donc leur quart de finale samedi soir et ce sera contre la Turquie. Un retour dans le top 8 européen pour les Néerlandais qu'ils n'avaient pas atteint eux aussi depuis longtemps et depuis 16 ans. Et puis nous évoquerons la Copa América au stade des quarts de finale là-bas aussi. Les dernières affiches seront connues cette nuit avec cet attrayant Brésil-Colombie, déterminant pour la suite de la compétition pour ces deux clubs, donc enfin ces deux sélections, car le deuxième du groupe jouera face à la sélection d'Uruguay de Marcelo Bielsa. Ça sera sans doute malheur au vaincu. Et dans ce studio, à cette heure tardive, pour évoquer tous ces sujets, ils sont là, tous les trois, d'attaque. Bonjour Yoro Mangara.
Bonjour Annie,
pardon, bonjour, bonsoir.
Bonsoir
presque
Annie,
bonne nuit.
Bah,
mais bon, bonsoir. Bonsoir aussi Ludovic Duchesne.
Salut
merci
Annie.
D'être là.
Bonsoir à toutes et à tous.
Et puis Nabil Djellit.
Salut Annie, salut
bonsoir
à tous.
Nabil. David Finzel m'a aidé à préparer l'émission et Mathieu De Gueldre est à la réalisation. Radio Foot, c'est parti.
Şimdi köşe vuruşunu kullanıyoruz. Arda Güler yaptı ortayı kale sahasına. Ters dokunuş ve gol! Gol geliyor! Gol! İlk dakika veri hattı. Türkiye golü buldu. Arda şimdi yaptı ortasını. Kale sahasına geldi. Ters kafa gol! Gol! Veri yine! Veri yine! Veri yine! 59. dakika yine veri.
C'est la fête dans les rues d'Istanbul et cris, chants, klaxons à cette heure tardive de la nuit où les Turcs et les supporters manifestent leur joie de voir le pays qualifié. Une belle qualification obtenue ce soir à Leipzig, à cet Euro qui se déroule en Allemagne. L'équipe a longtemps fêté d'ailleurs sa qualification sur la pelouse en sautant de joie. Alors là, c'était vraiment les supporters et ils étaient beaucoup dans le stade. Victoire énorme et un partage, disons, d'émotions entre les supporters dans les tribunes et les joueurs sur la pelouse. Les voilà donc qualifiés au bénéfice d'un match. Ils ont eu du mal à conserver leur avantage, mais ils ont réussi à battre dans le temps réglementaire l'Autriche qu'on voyait plutôt et David Lortolari s'excuse pour son mauvais pronostic on voyait plutôt l'Autriche l'emporter, même Eric Rabessandratana qui connaît bien le football turc aujourd'hui nous le disait, il les voyait trop irréguliers. Ils ont réussi et surtout sur le score de 2-1 on a bien cru que l'Autriche allait arracher l'égalisation en fin de match Euro.
Même Gardner, hein, il a presque marqué, ça me rappelle l'arrêt de...
comment
il s'appelle ? Non.
Gordon Banks.
Exactement, face à Pelé. Mais il va la chercher.
Il n'y avait pas Pelé, là.
Non, on le dit à tout le monde, il n'y avait pas Pelé sur le terrain.
Exactement. Franchement, mais moi, j'ai cru que le ballon était au fond. Mais bon, cet arrêt de
Meret. Le gardien est...
Il va chercher le ballon, malheureusement.
Et on est dans la quatrième et dernière minute.
C'était la 14e minute.
Du temps additionnel.
Du temps réglementaire. Mais moi, je crois qu'ils ont fait une première mi-temps pas très bonne côté autrichien. Après Arnautovic, il a mangé la feuille à la 64e, 65e minute. Cette action, il doit la mettre au fond, il doit piquer le ballon. Il a frappé fort sur, je crois, la jambe de Meret. Ils ont joué 45 minutes, mais malheureusement, ce n'était pas suffisant.
Oui, parce que les Turcs avaient ouvert le score vraiment dans les premières secondes du match, Ludovic. Et on s'est dit, théoriquement, l'Autriche avait le temps de rattraper son retard.
Oui, mais ils sont vraiment passés à côté de leur première période. Et même s'ils ont réagi en deuxième période, moi, je ne trouve pas que cette qualification soit imméritée. Et comme quoi, c'est bien une nouvelle compétition qui commence, parce que sur la première phase de poule, moi j'avais trouvé les Turcs assez inquiétants, notamment contre les Portugais, les Autrichiens assez séduisants. Et là, sur ce match-là, alors c'est vrai, contexte particulier, on avait l'impression qu'on était pratiquement à Istanbul. Le stade était vraiment turc. Ouais. Il y avait une vraie communauté, donc super ambiance, la pluie, des conditions de jeu difficiles. Et j'ai bien aimé ce milieu de terrain, même l'attaque turque avec Yidiz, avec Güler. Je trouve qu'ils ont des jeunes joueurs qui ont énormément de talent, donc ça fait un beau mélange. Et après une grande traversée du désert, parce que ça fait quand même pas mal d'années qu'on ne voit plus les Turcs à ce niveau-là.
Écoutez, ils avaient disputé une demi-finale de l'Euro, mais c'était en 2008. Donc voilà. Effectivement, donc ça fait quand même très longtemps, depuis 16 ans. Et puis, ils s'étaient une autre fois qualifiés pour les quarts de finale, et c'était en l'an 2000. Donc effectivement,
2000, c'était avec Şükür Akan.
Voilà,
et le retrouver là, moi je trouve ça très sympa.
Oui, et puis surtout quand on voit Nabil, et on le voit à travers donc les images qui nous parviennent sur les réseaux sociaux et tout, la joie que ça provoque dans une nation qui est passionnée par le football.
Oui, c'est vrai qu'il y a une ferveur incroyable. On le voit de toute façon à l'image des clubs turcs. Déjà, là, on est sur la sélection, mais c'est vrai que souvent le spectacle est plus en tribune que sur le terrain, notamment ces dernières années avec Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe. Évidemment, il y a des joueurs de ces clubs-là. Il y a un clubisme qui est fort, mais quand ils sont derrière le maillot turc, il y a une vraie solidarité, une vraie cohésion. Ils étaient plutôt attendus sur le dernier Euro comme une éventuelle surprise, un épouvantail, un outsider. Ils sont passés complètement à travers. Je me souviens de leur premier match contre l'Italie. Vous avez ramassé un 3-0. Et finalement, c'est une équipe rajeunie avec à sa tête un sélectionneur italien. On en parlera certainement. Vincenzo Montella, qui fait que cette équipe turque est plutôt enthousiasmante. Et puis ce soir, je tiens à leur tirer mon coup du chapeau, parce que moi, franchement, je pensais que l'Autriche allait passer, parce que je trouvais une équipe solide, niveau Bundesliga en quelque sorte. Il jouait quand même sans le dépositaire du jeu. C'était pas un joueur moyen, Çalhanoğlu. Ce soir, il était suspendu.
Ouais, c'est vrai.
C'est le numéro 10 de cette équipe, c'est-à-dire que tous les ballons passent par lui. Quand vous avez le ballon qui vous brûle l'épée, il n'y a pas de souci, vous pouvez lui donner le ballon. Il se débrouille, il est vraiment au-dessus du lot. Et ce soir, sans leur meilleur joueur, ils battent cette équipe d'Autriche, qui est une vraie bonne équipe, alors qu'il a évidemment raté sa première mi-temps. Mais sur la deuxième mi-temps, si elle avait été un peu plus en réussite, eh ben, elle aurait pu très bien, elle aussi, croire en son destin.
Restons sur cette équipe turque, Yoro, parce que justement, peut-être aussi pour compenser l'absence de ce joueur
qui joue
important,
à l'Inter de Milan.
Eh bien, il y avait les deux jeunes, et là, il a mis les deux en même temps d'entrée de match, Montella. Et il a mis, à savoir...
Yıldız Arda Güler.
Arda Güler, le jeune du Real Madrid, qui a 19 ans, et un autre qui a aussi 19 ans, Kenan Yıldız.
Ils avaient démarré l'Euro en étant titulaires et ils avaient même fait un excellent match.
Contre la Géorgie,
Et le deuxième match, ils ne sont pas rentrés, ils étaient sur le banc. L'entraîneur disait qu'ils étaient un peu fatigués. On comprend pour Arda Güler parce qu'il revient de blessure. C'était ses premiers matchs. Il avait enchaîné quelques-uns avant que le Real demande avant de venir à l'Euro. Ouais. Aujourd'hui, ils étaient titulaires. Ça permet aussi à cette équipe turque d'avoir de la vitesse sur les côtés, à l'image de ce que l'Espagne fait, même s'ils sont moins talentueux que les joueurs espagnols. Mais quand même, ils ont du ballon, ça va vite et ils sont intelligents dans le jeu. Aujourd'hui, ils n'ont pas marqué. Comme lors du premier match, Arda Güler nous fait sa spécialité. Il enroule le ballon petit filet, mais il a été impactant. Il a posé énormément de problèmes à cette équipe autrichienne, surtout en première mi-temps, parce qu'ils sont rapides et ils prennent l'espace tout le temps.
Et ils ne sont pas fatigués. Avant d'arriver à l'émission, on discutait avec Patrick Julliard. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parlera du match de tout à l'heure. On a vu deux vrais matchs de foot avec des favoris.
Ça nous changeait un peu.
Pas avec des favoris, pas fatigués. C'est-à-dire, là, pour l'instant, tous les favoris de la compétition, sauf peut-être l'Allemagne et l'Espagne, bon, ça ronronne, quoi. Et là, On voit des équipes en fait qui jouent pleinement leur leur chance avec des joueurs qui ont du volume, de la course. Alors peut-être qu'eux, sur leur saison, ils ont moins de matchs, peut-être qu'ils sont pas en Ligue des Champions, peut-être qu'ils n'arrivent pas en demi-finale des Champions, peut-être qu'ils n'arrivent pas cramés, moins bouillis. Mais en tout cas, ils ont de l'énergie à revendre.
Le jeu était plus ouvert. Là, je suis d'accord avec toi. Hein. Le jeu était plus ouvert. Après, j'imagine que tu dis ça par rapport à l'équipe de France.
Non, mais la France, l'Angleterre.
Non, mais, pas que l'équipe de France, mais
le Portugal hier.
Le Portugal.
Pourquoi je dis ça? Parce que quand tu vois l'Autriche ce soir. Alors, ils sont vraiment complètement passés à côté de leur première période, ce qui leur coûte l'élimination. Mais par rapport au match de l'équipe de France, où c'était très fermé contre eux, il n'y avait pas d'espace, ça ne jouait pas, ça n'allait pas de l'avant. C'est parce que je pense qu'ils craignaient aussi beaucoup l'équipe de France. Et du coup, là, contre la Turquie, là, pour le coup, c'était beaucoup trop ouvert à tous les niveaux. Et pour en revenir à Yıldız et Güler, quand ils n'ont pas joué lors du deuxième match, ça fait une vraie polémique là-bas, hein, en Turquie.
Enfin, ils font pas grand-chose pour faire une polémique.
Oui, ouais. mais c'est le match qu'ils ont perdu quand même 3-0 contre le Portugal.
C'est ça, exactement.
Et là, c'était quand même une grosse défaite qui mettait en...
Après, le scénario du match, bon, effectivement, une équipe qui est plus forte, il y a ce but donné, là, quand ils sont menés 1-0, il y a cette énorme cagade qui n'est pas là non plus pour vous aider, mais sur le tableau de marche, sur le calendrier, je ne suis pas persuadé que les Turcs avaient prévu de prendre 3 points contre les Portugais. Je ne dis pas qu'ils ne peuvent pas faire un bon match.
Mais
c'est contre la Géorgie et contre le... C'était qui le dernier adversaire déjà? La République tchèque,
la République tchèque
c'était là qu'ils jouaient leur qualif et d'ailleurs ils l'ont réussi.
Et c'est là qu'ils l'ont réussi. En tout cas, il y avait quelque chose d'important aussi peut-être sur ce match. On l'avait lu bien sûr dans les et entendu dans les déclarations d'avant-match. C'était ce match du mois de mars, un match amical entre la Turquie et l'Autriche. Et l'Autriche avait passé 6-1. Et là Montella, hein, qui venait d'arriver un peu dans cette équipe, il a dit en gros j'ai compris quoi.
Oui, mais je pense que voilà, ces matchs amicaux ne sont pas vraiment révélateurs de ce qui peut se passer quelques mois, surtout plus tard.
C'est ce qu'on pensait un petit peu dans la première mission, en se disant, bon, c'est un match amateur, et des fois, ce match-là, presque, on lâche, quoi. Il y a un moment...
Oui,
il le disait, d'ailleurs. Il y avait eu un moment de basculement dans le match.
Et... Après, Annie, ça peut aussi marquer les esprits, dans l'autre sens. Mais là, j'ai senti des Turcs, justement, libérés. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'effectivement, ils ont été joueurs et ils ont ça courait
c'est
un peu partout.
Aussi.
Ouais, c'était sympa, mais c'est pour ça que moi j'aime aussi cet Euro qui est assez critiqué. Mais moi, je trouve qu'il y a plein d'équipes qui jouent. On a vu la Slovénie, la Slovaquie, la Géorgie. Ben voilà, c'est peut-être pas des grandes nations, mais ça joue au foot, ça court dans tous les sens.
C'est les favoris qui sont pas au rendez-vous pour l'instant en termes de contenu.
Et ça fait du bien de voir ces équipes-là.
Il y a un joueur là, que j'adore. J'ai repéré dès le premier match. J'en ai parlé à Mathieu Grégoire. Qui est correspondant d'équipe qui suit la Turquie, le gaucher, enfin celui qui est latéral gauche là.
Et qui joue avec son pied droit comme Manuel Moros.
Ouais, il s'appelle Ferdi, bon je l'ai renommé Ferdi Time, mais il a des qualités qui sont extraordinaires et il est la révélation cette saison du championnat turc, le joueur de Fenerbahçe. Donc c'est bien, ça nous permet aussi cet Euro de découvrir des têtes et des potentiels. Dans ces équipes-là, la Géorgie, on a vu des joueurs en attaque, notamment un milieu de terrain aussi, Kokoro Shvili, là, qui joue du côté de Levante, qui est extraordinaire.
Mamadar Shvili, le gardien, fantastique.
Et là, le gardien turc, là, il est très bon aussi.
Bah oui.
Meret,
Gunok.
Et Muldur à droite, là, qui a mis une reprise de volée d'entrée contre la Géorgie, qui est un très bon joueur aussi.
Et lui, il est né en Autriche. Il a joué d'ailleurs au Rapid de Vienne avant d'aller jouer en Turquie.
Et d'ailleurs, ce soir, je lisais sur certains réseaux qu'il y a une énorme communauté turque. Aussi en Autriche, et évidemment après les descendances et tout, et que de toute façon, ceux qui étaient turcs ou turco-autrichiens, ils gagnaient à tous les
coups. C'est les charmes de la binationalité.
En tout cas, que dire oui, effectivement. Que dire de la... de cette Autriche Euro, parce que c'est une déception, on s'attendait.
Elle a appris à ses dépens, Annie, que c'est un autre tournoi qui commence.
Ils ont raté le jackpot, là.
Bah oui, parce que les phases de poule, on peut toujours se dire, on a perdu un match, on va essayer de se rattraper. Ils ont été très bons face à la France, ils ont perdu. Ils ont terminé en boulet de canon en gagnant leurs deux matchs et en terminant premier du groupe. Ils tombent sur une Autriche, sur la Turquie. Ils font 45 minutes.
Dégueulasse.
Et après, ils se réveillent, mais c'était trop tard parce que ça pardonne pas. Et aujourd'hui, c'est fini.
Ils ont fait la politique de l'Autriche sur la première période.
Voilà.
Puis quand ils ont sorti la tête.
Slash.
Non, mais t'as raison. Non, mais moi, je suis autrichien. Non, mais là, je suis passé à côté du ticket du loto, là. Non, mais je vous dis, si avant la compétition, on vous dit qu'en huitième de finale, vous avez une équipe qu'on le veuille ou non, même si c'est un amical, vous l'en avez collé 6 il y a 3 mois. en plus, ils sont sans leur meilleur joueur, et que vous, vous faites vraiment un bon premier tour contre la France. Ils ont été costauds et solides. Bon, ils perdent d'un rien, mais la France était un petit peu devant. Ils battent les Pays-Bas, qui est une vraie bonne équipe, et on le voit.
Après avoir fait un bon match.
Je veux dire, si tu dois t'arrêter, mais arrête-toi en huitième de finale contre le Portugal, l'Espagne ou l'Allemagne. Là, ils s'arrêtent contre la Turquie, qui est une équipe qui n'était pas attendue à ce niveau-là. Donc, t'es autrichien, il y a des regrets, c'est clair.
Surtout qu'on l'a vu, cette Autriche qui se présentait comme très solide, avec un style de jeu bien marqué grâce à Rangnick, Alaba qui était là pour un peu...
encadrer.
Encadrer et motiver ses joueurs, et finalement, ça n'aura pas marché.
Non, mais c'est très costaud quand on voit le milieu de terrain, que ce soit Baumgartner, Leimer, Sabitzer...
Sabitzer, bien sûr.
Voilà, Schmidt.
C'est une équipe de haut de tableau de Bundesliga.
Moi, je trouve que c'est assez faible, ça reste devant... Parce qu'Arnautovic, on le connaît.
C'est le Zlatan
du
pauvre.
C'est un match sur deux ou trois, donc c'est pas tout le temps le cas. Et quand c'est pas le cas, il n'y a plus personne devant. Donc c'est très compliqué, je trouve, pour, côté et autrichien, pour aller marquer des buts.
Et pourtant, ils ont démarré le tournant sans lui. Parce que contre la France, il était remplaçant. Je sais pas, après, il est rentré en deuxième.
Arnautovic ?
Oui.
Mais sa carrière, c'est une carrière de frustration. Moi, je l'appelle le Zlatan autrichien, parce que dans le style et tout. Mais cette année, si vous regardez la Ligue des Champions, il joue avec l'Inter de Milan, il est backup, il est remplaçant, il rentre. Le match allé contre l'Inter Milan, il rate un nombre incalculable de situations. C'est un garçon qui ne fait pas la carrière qu'il devrait faire. Et ce n'est pas une valeur ajoutée aujourd'hui du côté de l'Autriche. Mais les joueurs qui ont été énoncés là, c'est quand même du très haut niveau là, les Sabitzer et compagnie.
Leimer,
c'est pas
ça.
Des touristes. En face, ils sont moins confirmés, les Turcs. Il faut bien se rendre compte que ce soir, il y avait un vrai favori et il n'a pas été au rendez-vous. Quoi.
Non, sinon, si tu mets Parnotomi, je regardais justement, c'est Grigoric qui peut jouer devant et je trouve que c'est mieux.
C'est mieux.
T'as plus de sécurité, je trouve plus réaliste. Arnautovic, tu lances une pièce et la pièce, quand elle tombe pas du bon côté, c'est un match comme ce soir où il rate des occasions, des face-à-face, des duels qu'il doit pas rater sur ton huitième de finale.
Ils vont pouvoir prendre le bus parce que c'est pas très loin s'ils veulent être éco-responsables. Quant aux Turcs, ils ne se seront pas arrêtés à Vienne. Ils continueront leur route.
Voilà. Ouais. Exactement. Ils poursuivent dans cette compétition. Alors, c'était le dernier huitième de finale que ce match qui nous a bien plu parce qu'il était très disputé et avec du suspense jusqu'à la fin. Les joueurs donc de la Turquie sont qualifiés et ils vont retrouver en quart de finale. Ça sera leur prochain match donc et ce seront les Pays-Bas.
Gakpo kan zijn actie maken en misschien schieten. Daar komt hij. Gakpo! Oh! Goal! Gakpo! Zo! We staan voor met 1-0. En het is weer... Gakpo neemt hem mee. Gakpo zet zijn medegebied in. Gakpo over de achterlijn. En dan gaat hij erin. En dan is het klaar. Over en uit. Donjan Malen. Hehe. Hehe. Malen. Wie is er mee? Reinders is mee. Weghorst is mee. Malen moet eigenlijk zelf gaan doen. Malen gaat het zelf doen. Malen! 3-0. Donjan Malen. Zijn tweede van de avond.
Les hordes de supporters hollandais, hein. On les voit quand ils se déplacent tous ensemble en colonne. Alors, ils étaient un peu moins nombreux tout à l'heure à Munich, mais quand même, ils étaient venus avec leurs beaux, belles couleurs orange, encourager leur équipe. Et des Néerlandais qui ont remporté ce match face à la Roumanie. Ils ont marqué leur premier but assez tôt. Ensuite, ils ont mis pas mal de temps pour en inscrire 3 au total, 3-0. Homme du match, l'attaquant des Reds, Cody Gakpo, qui a ouvert le score. Et puis, il y a eu ce doublé de Malen.
De Dortmund.
Exactement, du BVB, un des finalistes de cette Ligue des Champions récemment. Et c'était sans doute une réaction plus que nécessaire de la part des Pays-Bas, attendue, c'est ce que confirme Virgil van Dijk après le match.
Il y a beaucoup d'attitudes après cette victoire que nous devons conserver, évidemment, pour notre quart de finale. Mais il y a aussi beaucoup de choses que nous devons améliorer. Et puis, il faudra aussi mentalement être prêt, bien récupéré, et nous y retournerons. Quant à notre premier buteur ce soir, Cody Gakpo, il joue à un niveau aussi élevé depuis au moins un an, vous savez. Je le vois tous les jours à l'entraînement. Je vois le travail acharné qu'il fait et qu'il produit. Il joue dans la meilleure ligue du monde, l'un des meilleurs clubs du monde, Liverpool. Il est vraiment très important pour nous et il doit rester comme il est et continuer à faire du bon boulot.
Take that responsibility and he's doing a good job. On va en parler de ce Cody Gakpo, mais pour l'instant, Ludovic, c'est une qualification quand même attendue de la part des Pays-Bas, non ? Un huitième de finale, même si ça leur arrivait pas eux non plus depuis 2008.
Ouais, d'autant plus attendu que je trouve que la Roumanie, alors là pour le coup, est passée aussi à côté. Ah oui. Mais là, j'ai envie de dire que plus parce qu'on avait vu des belles choses de la part des Roumains, oui. Mais c'est plus quand même dû au niveau de jeu des Pays-Bas. Quand on regarde leur équipe, c'est vraiment très intéressant. Là, tu parlais de Cody Gakpo, je trouve que c'est peut-être l'un des 3-4 meilleurs joueurs de 7 euros. Mm-hmm. Il est vraiment performant.
Il est le meilleur buteur, là.
On l'a vu contre Execo. L'équipe de France. Et puis, ce que j'aime beaucoup aussi, il y a beaucoup de joueurs de renom. Mais ce milieu de terrain qui a été vraiment excellent cet après-midi, Reinders, ouais, Schutel, Simons, je les ai trouvés excellents tous les trois.
Passe décisive de Simons.
Ouais, il rayonne. Et Simons, le joueur que ne veut pas faire jouer le Paris Saint-Germain, mais ça, ouais, c'est
mais
encore autre chose.
Ouais, il va partir. Donc,
mais voilà, quand on voit les deux autres, là, Schutel, Reinders, pourtant, ils ont eu beaucoup de blessés en plus, hein, de joueurs qui n'ont pas joué dans cet Euro, qui n'ont pas pu venir au
le
milieu de terrain.
Terrain complètement dépeuplé, et notamment De Jong, le Barcelonais.
Et là, ils te trouvent trois joueurs comme ça qui sont magnifiques. Et quand tu regardes le banc, il y a des joueurs comme Frimpong qui n'ont pas joué, De Ligt, Blind, Malen qui est rentré, ça c'est bien aussi avec Ronald Koeman qui le met pas au début, il met Bergwijn, il se rend compte que ça marche pas du tout, il fait rentrer Malen et après le gars il met deux buts. Donc ça je trouve que c'est bien de trouver ces ajustements. Il s'est trompé je pense dans sa composition parce que Bergwijn n'avait pas joué encore et il a été catastrophique et il fait rentrer Malen et ça marche. Donc c'est une équipe qu'il faut prendre très au sérieux les Pays-Bas.
Parmi les absents, il y a Kapmeiners quand même
qui est très bon,
l'Atlanta qui remporte
la Ligue Europa,
qui vient de signer d'ailleurs à la Juventus de Turin pour 60 millions d'euros. Mm-hmm.
Oui. Nabil, vous aussi, ces Pays-Bas, vous les trouvez à leur niveau, je dirais, au niveau qu'on attendait, parce qu'il y a quand même une constellation de stars, et Ludovic le disait, mais on pense aussi à Depay, on pense à Dumfries, on pense à Van Dijk, on pense à Ake, tous ces joueurs qu'on voit beaucoup dans les grands clubs.
Non, mais bon, c'est fidèle à ce qu'est les Pays-Bas. De toute façon, des individualités, un logiciel de jeu, ils ont toujours eu. Mm-hmm. Après, ils ont des creux un peu générationnels. Oui. Là, il y a quand même aussi parfois... vous savez, parfois dans le football, il faut que les planètes s'alignent. Il faut avoir un peu de baraka, il faut avoir un peu de réussite. Ils sont tombés du bon côté du tableau, avec quand même un tableau assez dégagé.
En finissant troisième, en plus.
Et comme je le disais en off, avant qu'on reprenne, moi, je suis néerlandais ce soir. Je suis content plutôt de jouer la Turquie que cette Autriche qui aurait pu... Qui les avait déjà battus en poule.
Nabil, t'es autrichien ou néerlandais ? Parce que tout à l'heure, tu nous as dit je suis autrichien.
Moi, je suis franco-algérien
ce soir.
Je suis franco-algérien et je ne choisirai pas. Voilà, comme ça, c'est réglé. C'est un trait d'humour, évidemment.
On ne demande pas de choisir, nous.
Mais je sais bien. On sent très bien ici, d'ailleurs.
Voilà, exactement.
Et pour en revenir à nos amis néerlandais, ils sont en train de monter en puissance, comme on se le disait. Annie, vous avez tout à fait raison. Là-dessus. Et moi, où j'ai vu qu'ils étaient forts, c'est face à l'équipe de France. Pourquoi ? Parce qu'ils ont, quelque part, neutralisé et contrôlé le match, en quelque sorte. À un moment, ils ont été dans un refus de jeu, ce qui est finalement à l'opposé de ce qu'est leur ADN, ce qui est plutôt une équipe joueuse. Et j'ai senti qu'il y avait quand même une forme de maturité chez eux. Bon, je trouve que c'est une très bonne équipe.
Et de crainte aussi.
On pourrait très bien se retrouver avec une finale à l'ancienne, Allemagne-Pays-Bas, remake de 74. Non, je ne suis pas en train de vous donner la finale avant l'heure. Mais voilà. Et Depay, il n'a toujours pas marqué. Il a marqué ou il n'a pas marqué ?
Non, je crois toujours pas.
Et ben, c'est comme Cristiano Ronaldo. Attention.
sur cette équipe des Pays-Bas, justement, elle finit troisième d'un groupe qui était certes compliqué, hein, avec la France et l'Autriche, donc on le dit, et la Pologne. Mais il y avait des distances aussi entre les joueurs. Ils ont re-regardé le match, ils avaient apparemment échangé des mots sur le terrain, c'était pas très cool, et ils ont réussi à se parler, c'est eux-mêmes qui l'ont dit, hein, et laisser surtout filtrer, et on a l'impression que ça s'est vu aujourd'hui.
Parce qu'on les a vus lors de leurs trois premiers matchs, il n'y avait pas de repli défensif. Au fait, c'est une équipe qui attaquait, mais après qui ne défendait pas. On voyait Virgil van Dijk faire des gestes pour rappeler ses joueurs et ses partenaires pour qu'ils reviennent. Mais aujourd'hui, on a vu Memphis Depay, c'est lui qui lançait le premier sprint pour essayer de faire le pressing. C'est-à-dire, ils se sont parlé et ils ont su que dans cette équipe, il y a quand même de très bons joueurs de football. En plus, ils ont été aidés par une Roumanie qui avait laissé un boulevard sur son côté gauche, Dumfries. S'il était aujourd'hui, je crois, inspiré, ils auraient pu partir à la mi-temps avec minimum 3-0 parce qu'il a eu...
Un peu moins.
Et oui, pour moi, aujourd'hui, quand je vois même ceux qui entrent en deuxième mi-temps dans cette équipe néerlandaise, on se dit il y a quand même du bagage, quoi.
En tout cas, Virgil van Dijk soulignait donc et parlait de Gakpo, qui a été le buteur, le premier qui a ouvert le score aujourd'hui. Il loue son bon niveau. Alors évidemment, il le connaît bien. Ils jouent ensemble chez les Reds, à Liverpool. Il en est à 3 buts et une passe décisive sur 7 euros. Et en 3 matchs, et bien, il avait fait exactement la même chose à la Coupe du Monde en 2022, quand c'était du côté du Qatar.
Ouais, Sénégal, Équateur.
Il avait marqué contre nous.
Contre le Sénégal qui avait été...
Non, mais il a que 25 ans, c'est un très bon joueur. Il est il est pas le seul, il y a les Musiala.
On le voit progresser d'ailleurs du côté de Liverpool.
Mais oui, absolument. Mais bon, quand tu joues dans un grand club, c'est vrai que tu progresses, mais
et que tu es un bon entraîneur,
fait partie de ces ailiers qui sont assez incroyables sur on peut le comparer peut-être à Musiala, à Dembélé, à des joueurs qui sont capables de faire d'énormes différences sur les côtés.
Mais lui, il est plus clinique que ces gens que tu viens de citer.
Lui, il marque. Ouais, c'est peut-être la différence. Musiala marque aussi. Hein. Mais c'est des joueurs qui sont vraiment, c'est des déstabilisateurs, donc capables de faire sauter une défense.
Dans la pure tradition quand même de ce que sont les Néerlandais, avec des ailiers extraordinaires dans l'histoire du football.
Exact.
Bon, c'est pas le talent de Robben, évidemment, mais Robben, Overmars, on peut vous en citer... des milliers et des cents. Un petit clin d'œil quand même du côté du Togo, parce que c'est quand même un garçon qui est originaire du Togo, tout comme Barcola, l'international français. L'international français. Donc c'était une pensée pour nos amis togolais.
Et tu sais qu'est-ce que ça signifie, Gakpo,
Tu vas me le dire ?
Le fer.
Ah d'accord.
Ouais. Donc il est solide.
Il a joué le fer.
Il est solide.
Non, mais avec Nico Williams, l'espagnol.
Aussi, ouais, j'ai oublié.
Gakpo. Là, on n'est pas loin, peut-être, au moment où on se parle, des meilleurs joueurs du tournoi, quoi.
Ils ont aussi beaucoup raté durant ce match. On a vu beaucoup d'occasions de paille par deux fois. Il y a aussi Van Dijk qui a essayé. Gakpo,
Xavi Simons.
Après, Xavi Simons, un certain Verman aussi. Et puis Reijnders, là, qui
est très bon. Reijnders, qui est pour l'instant une des valeurs sûres de ce tournoi. Et tout à l'heure, vous avez quand même cité, parce que moi, j'avais des doutes quand j'ai vu que De Jong était forfait. Quand même, De Jong, c'est un joueur extraordinaire qui donne le tempo d'une manière incroyable. Ça dit quand même la ressource de cette équipe néerlandaise.
On l'a dit, De Roon, De Jong, Koopmeiners, qui est vraiment un très bon joueur. Tu as raison, au niveau de la Ligue Europa, qui a fait une très très bonne saison. Et malgré ça, ils arrivent à sortir un milieu de terrain qui est peut-être l'un des plus performants de l'Euro.
Assez digne, en tout cas.
De toute façon, Tijani Reijnders, il est en train de faire ce qu'il fait avec le Milan AC. C'est un super joueur.
Ouais,
quoi.
Super joueur. Ouais. D'accord.
Bien vu.
En tout cas, Ronald Koeman, qu'on a bien connu, notamment du côté de Barcelone, à la fin du match, il a dit « Nous sommes les Pays-Bas, on se doit de proposer un beau jeu offensif ». Est-ce que le retour aussi de Koeman dans cette sélection, parce qu'on se souvient, avec lui, ça marchait bien, et notamment, on se souvient de Depay, qui était un peu son homme-lige. Il part au Barça, où ça se passe plus ou moins bien, et de toute façon, c'est la fin de Messi. Et quand il revient, on a l'impression qu'on retrouve quand même un peu ce qu'il avait insufflé aux Pays-Bas.
Il connaît, en fait, ce groupe. Il connaît ce groupe. Et puis, quand on parle de Ronald Koeman, on parle du football néerlandais. Il est là,
c'est parti. C'est un ancien joueur, précisons-le.
Il a gagné l'Euro en 1988 avec cette équipe néerlandaise. Il revient avec des joueurs déjà qu'il connaît, et certains en club. Et puis, je crois ce qu'il a apporté aussi à ce groupe, c'est la sérénité. Parce que quand même, avec l'ancien entraîneur, ce n'était pas serein. Le groupe s'était un petit peu fissuré et il a réussi quand même à recoller le morceau. Et il a réussi également à redonner le brassard à un joueur qui, pour moi, il n'a pas encore retrouvé sa plénitude. Mais quand même, ça reste un leader, c'est Virgil van Dijk.
Ah oui, c'est un très grand joueur. Lui.
Le rôle de Koeman, Ludovic.
Oui, ce qui m'intéresse, c'est que c'est un joueur. Alors, il y a une vraie culture, on le sait, entre Barcelone et les Pays-Bas, depuis Johan Cruyff. Mais lui, en tant que joueur, en tant que défenseur, c'était pas vraiment un Brésilien. On peut pas dire que que c'était un joueur extrêmement peut-être technique ou en tout cas qui faisait du beau jeu. C'est un joueur assez rugueux.
Les défenseurs brésiliens, c'est pas.
Non, mais
c'est un
ce que je veux dire dans
les croyances, quoi.
Dans l'esprit brésilien.
Dire qu'il y en a.
Et pourtant, ce qu'il propose est vraiment intéressant. Et ce qu'il arrive à faire, toi, tout à l'heure, je citais des joueurs, on n'a même pas cité Frimpong, qui est un très bon joueur, qui peut jouer aussi sur le côté. Gertruda, que le Paris Saint-Germain cherche peut-être à recruter. C'est pour ça qu'il y a vraiment un groupe, moi, qui me plaît beaucoup.
Et il y a un tableau dégagé, quoi.
Et Annie a raison, je pense que Ronald Koeman, évidemment, est forcément responsable. Ils n'ont ils ont pas toujours été au point, les Pays-Bas, ces dernières années. Mais là, voilà, comme disait Nabil, j'ai l'impression que les planètes s'alignent. Mm.
Eh bien, justement, vous vouliez venir. On y vient, Nabil, à ces tableaux. Peut-être un petit mot sur la Roumanie.
La Roumanie,
elle avait tout donné au premier tour.
Je pense qu'elle a atteint son plein fond de verre. Elle est sortie d'une poule où elle a bien bataillé. Elle a
première réussi. Du groupe, hein, alors surtout... que les Pays-Bas étaient troisième. Ouais. Et finalement, c'est le troisième qui s'impose.
Ouais, première du groupe avec 4 points. Hein. La Belgique, l'Ukraine, si je me souviens bien. Ouais. Elle a surtout brillé surfé contre l'Ukraine.
Exactement, le 3-0.
Elle a surfé sur ces succès-là. Mais pour les Roumains, c'est important, même en termes d'estime et de confiance, de revenir un peu sur la scène européenne. On sait qu'il y a quelques dizaines d'années, notamment dans les années 90-80, c'était un football dynamique et performant en Europe. Il y a eu une vraie traversée du désert.
Mmh. Et là, notamment avec l'arrêt Bosman qui a appauvri, de façon, évidemment.
Et puis la chute du mur de Berlin, voilà, pour tous les pays.
Tout
l'Est de l'Europe a été mis en difficulté de manière structurelle.
Mais il reste du talent.
Elle reste du talent, et quand vous n'avez pas de talent, vous pouvez compenser par un bon collectif. Mmh. Parce que moi, là, si vous me dites qu'il y avait des talents de dingue du côté roumain, bon, Stanciu, il a 33 ans, il joue en Arabie Saoudite. Je ne suis pas non plus époustouflé par la qualité des joueurs.
Et c'est pas non plus
mais on est loin de son père.
C'est pas son père, quoi.
Non, mais collectivement, on a vu des choses intéressantes.
Voilà, je suis d'accord.
Notamment dans l'un des matchs de poule.
Ça te permet de travailler pour la suite intelligemment et essayer d'améliorer cette équipe.
Oui, bien sûr.
Alors, ces quarts de finale qui se disputeront entre vendredi et samedi, bien en hors d'œuvre, ça sera quand même du côté donc d'une partie du tableau, et ça sera costaud.
Ah, sympa.
Entre l'Espagne et l'Allemagne, une véritable affiche
de finale,
bien sûr.
C'est mieux qu'une finale même.
Parce que c'est
un quart de finale.
C'est une Zuber finale.
Et puis France Portugal de l'autre côté, et on aura donc Suisse Angleterre et puis
bon
Pays-Bas Turquie. Moi, j'avais envie de vous poser une question, Nabil. D'où pourrait venir la surprise?
Alors, attendez, Pays-Bas-Turquie, la Suisse, la surprise, ça peut être la Suisse. Là, par rapport au
tableau... Qui élimine l'Angleterre?
Ouais, oui, parce que je vois pas... Alors, bon, après, c'est juste des pronostics, hein, on n'est pas pronostiqueurs, je vous donne ma sensibilité.
Bien
je
sûr,
pense que les Pays-Bas
analyse.
Vont passer. Ils sont au-dessus de la Turquie, même si Çalhanoğlu va revenir. Allemagne-Espagne, la meilleure équipe, c'est l'Espagne, mais je vois l'Allemagne passer.
Moi aussi.
France-Portugal, je ne vais pas me faire que des amis, mais je pense que les Portugais vont passer.
Ah, il y a beaucoup de Portugais en France qui doivent vous écouter. Ouais. Nicolas Villas,
non, mais après, l'un d'eux. Après, j'espère me tromper, hein, je vous le dis. Et Suisse-Angleterre, ils ont de la Suisse dans les idées, nos amis de la Nati.
Voilà.
Je les trouve intéressants. Et les Anglais, bon, alors les Anglais, c'est soit le miracle de la dernière fois, ça va leur permettre d'aller jusqu'au bout. Vous savez le truc, quand vous passez tout près de l'échafaud et vous échappez, et puis c'est carpe diem. Soit, effectivement, c'est vraiment une équipe moyenne et en régression par rapport à la dernière Coupe du Monde. Et ce qu'a proposé la Suisse jusqu'à présent, ils ont malmené l'Allemagne, ils ont surclassé l'Italie. Qu'est-ce qu'ils ont joué en poule déjà?
L'Écosse.
Bon, l'Écosse, bon, qui était là pour faire du tourisme, bon, je plaisante.
Mais
bon, en tout cas, c'est une vraie bonne équipe de la compétition.
Ouais, franchement, oui.
Ouais. Yoro, pour vous, d'où pourrait venir une surprise? Bon, alors, bonne
en
ou
tout
mauvaise
cas,
hein.
Si les Anglais font les mêmes matchs que lors de leurs 4 matchs dans ce tournoi, ils seront éliminés par la Suisse. Parce que pour moi, c'est l'équipe la plus joueuse, la plus tactique et la plus intelligente de ce tournoi. Elle n'a pas le talent que l'Espagne a,
non,
ni que comment ça s'appelle, l'Allemagne a, mais quand même, dans le jeu et dans le respect comment ça s'appelle, de la tactique mise en place, c'est une équipe dangereuse, parce que il y a beaucoup de couteaux suisses
devant.
Dans...
ça va devant. Ah, très bon, très bon, très, très bon.
Non, c'est la soirée, hein.
Très très bon.
J'espère qu'on enregistre, parce que faudra repasser tout ça.
Non,
ça,
mais
va faire un,
non, mais il y a de la qualité devant. Damendoy, Embolo, l'attaquant
après,
d'origine
après sur les Suisses, messieurs, moi ce qui me j'ai l'impression quand même qu'il y a toujours une espèce de plafond de verre. Là, on y arrive. Ils arrivent en quart de finale, c'est l'Angleterre. J'ai peur qu'ils se
oui, c'est
qu'ils se cognent encore une fois contre ce plafond de verre. La surprise, ça pourrait être la Turquie, pourquoi pas, hein, contre les Pays-Bas. Franchement, on ne sait pas. L'équipe qui joue le mieux depuis le début de cette Euro, j'ai l'impression que c'est l'Espagne.
Dembélé contre l'Allemagne, il joue attaquant. Il a joué sur le côté droit, il a joué sur le côté gauche.
Une des surprises, ça pourrait aussi, Annie, être que l'équipe de France marque un but dans le jeu. Que ce soit pas CSC qui nous marque un but.
Ça
pourrait être une surprise par rapport à ce qu'on a vu depuis le début.
Ça risque d'arriver, on n'a jamais été aussi prêts. On va marquer, tu sais.
Mais nous, on est injouables, on est des génies. Coupe du Monde 2018, le numéro 9 qui est le mec le plus près du but, il ne cadre pas une frappe, la France est championne du monde. C'est quand même extraordinaire.
Mais il a son rôle.
Non, mais je ne suis pas en train de le dévaloriser, loin de là, mais c'est pour vous expliquer quand même.
98, c'est déjà le cas.
Non, mais bon, et là, la France est en quart de finale sans avoir marqué un seul but dans le jeu.
C'est ça qui est beau.
Non mais je veux dire
fou. Non mais c'est fou, t'as raison.
C'est pas possible.
C'est pour rentrer dans le livre des records.
Moi
personnellement, vu de l'extérieur, je m'incline. Mais bon après.
Non, après
on prend pas de but non plus. Hein. C'est-à-dire qu'on défend bien.
La France a sans doute la meilleure défense. Ouais, voilà. Je pense qu'elle a le meilleur gardien.
Mais quand t'as ces joueurs là et qu'on te dit qu'après, on est à combien, 5 matchs ou 4
4
matchs. Quand t'as ces joueurs là qui sont parmi les meilleurs joueurs au monde à leur poste, si on te dit qu'il n'y en a aucun but qui est marqué dans le jeu, juste avant le tournoi, je pense que personne ne met sa maison en jeu.
Oui, théoriquement, avec Mbappé et Griezmann qui marquent des buts avec leur club.
Nabil, toi qui aimes bien l'histoire du foot, rappelle-toi qu'en 2002, on a les meilleurs buteurs de tous les plus grands championnats et on ne marque pas un but. Donc, c'est
à cause du Sénégal.
Ouais, ou gras, ça dépend. Mais ouais,
ou alors ils vont mettre une raclée au Portugal.
Ouais, on ne sait pas, ils vont se réveiller peut-être. Hein.
Est-ce que la pluie, vous avez vu quand même qu'il pleut beaucoup en Allemagne, est-ce que la pluie peut être un facteur gênant, dérangeant?
Joueur professionnel, chevronné, habitué à évoluer dans presque toutes les conditions. Parce que bon, effectivement, quand vous jouez en Afrique tropicale, c'est pas exactement la même chose que quand vous jouez dans une zone tempérée, quoi, entre guillemets, quoi. Mais je pense pas que la pluie, c'est quelque chose qu'ils sont habitués à gérer,
connaître. Ils ont eu presque chaud à un moment, mais finalement, ça a l'air d'être...
Ils sont pas gâtés par le temps.
En tout cas, c'est dingue, là, encore ce dernier match Autriche-Pays-Bas, ils tombaient derrière
le bar. C'était pas Allemagne-Danemark, où on a carrément arrêté le match.
C'était à cause des grêlons, c'était même pas la pluie.
Ça dépend de la pelouse, en fait. Si c'est de la gestion
du mal,
voilà. Ça dépend de la pelouse.
Bon allez, voilà pour ce qui est de l'euro. On y reviendra bien sûr d'ici vendredi. Mais nous allons nous transposer vers des latitudes éloignées du côté des États-Unis. Praia e Sol,
ça me rappelle
Maracana,
des souvenirs à la Coupe du Monde 2014, Annie, avec vos cartes postales. Et c'est cet habillage musical que j'avais ensuite mis dans ma voiture quand je rentre tranquillement sur l'autoroute.
Alors, Praia Futebol, plage et football, Maracana, évidemment.
C'est pas mal.
En tout cas, il reste deux affiches à définir dans les quarts de finale de cette Copa América et qui se déroule en Amérique du Nord. Et ce sera cette nuit à l'issue des derniers matchs du groupe D où la Colombie et le Brésil joueront face à face avec pour enjeu la première et la deuxième place de ce groupe D. Leur match se déroulera à Santa Clara en Floride dans un stade de 72 000 places. Alors les Cafeteros sont premiers du groupe, les jaunes et verts sont deuxièmes derrière avec 2 points en moins. Il leur faut gagner surtout parce que la carotte, on va dire, c'est que soit ils joueront s'ils sont premiers face au Panama, surprenant mais Panama, et sinon ils se retrouveront face à l'Uruguay. C'est autre chose.
C'est pas la même chanson ni la même carte postale. Là,
exactement, pas tout à fait. C'est moins tropical. Nabil, les Brésiliens de Vinicius peuvent-ils battre les Colombiens de James?
Oui, ça va pas être simple parce que cette équipe colombienne, elle est vraiment, disons-le, elle est vraiment très cohérente, très impressionnante. Elle a de la qualité avec un James un peu au centre de tout, un peu comme Messi avec l'Argentine, c'est-à-dire que les autres sont là pour lui aussi. il lui demande moins de courses, mais lui, son pied... Bon, bah, on est aux États-Unis, en fait, lui, c'est un fossé. En fait, il aurait pu faire du football américain parce que c'est un quarterback, parce que ça, son pied, c'est une main, c'est exceptionnel. Et puis, autour, il y a de la qualité. Il y a Luis Diaz qui est en transition, en contre, en 1 contre 1, qui est très fort. Il y a une charnière centrale qui est puissante avec Davinson Sanchez et Yerimina, notamment. Il y a d'autres joueurs, moi, Cordoba, qui m'a tapé dans l'œil, qui évolue du côté de Krasnodar. Donc, c'est une équipe puissante, véloce et technique. Et le Brésil, il y a quand même des interrogations.
Alors, premier match sans marquer.
Face à un Costa Rica qui a joué très bas.
Voilà. Par contre, le Paraguay.
Le Paraguay qui a été un petit peu aussi.
4-1.
Ouais, qui est une équipe mauvaise. Hein, le Paraguay, on est en éliminatoire Coupe du Monde. C'est un but en 5 matchs. Donc, c'est très faible. Et cette équipe brésilienne, bah, elle repart encore sur un nouveau cycle avec Dorival.
Vinicius qui a marqué.
Avec des profils parfois.
A priori, il remettrait la même équipe que contre le Paraguay.
Va peut-être rejouer en 4-2-3-1, mais avec Rodrigo en faux neuf. Savio, qui est du côté de Girona, ou Savinho, qui est un joueur qui est un peu là.
Il appartenait à 3, c'est ça qui est fou.
Bah, il est passé à 3, mais il n'a jamais joué.
Il est vendu à Manchester City.
Il est passé en voiture, comme nous, des fois, on peut passer devant 3 et pas y jouer, donc c'est pareil. Donc ça, c'est le charme du football business. Donc il y a des questions. Alors il y a Paqueta qui s'est mué un peu en meneur de jeu, qui a raté un pénalty contre
le Paraguay.
Mais moi, je vais vous dire, je ne sais pas ce qui va se passer, mais moi, pour moi, il y a une certitude sur l'équipe du Brésil. Il faut que Neymar revienne. Voilà, c'est un autre débat, mais il faut.
Il est en tribune pour l'instant. Ouais, il les encourage.
Non, c'est pas hasard s'il est là autour de la sélection. Je pense qu'il communique aussi.
De toute façon, s'il n'y est pas, c'est parce qu'il est blessé. C'est pas parce qu'il veut pas.
Je crois qu'il a attendu.
Il faut absolument qu'il revienne.
Je crois qu'il a attendu.
Ludovic, sur cette rencontre. Je ne sais pas si vous les regarderez, parce que c'est à 3h du matin. Alors,
je crois que ce n'est pas 2h.
De l'emploi du temps en ce moment.
Non, c'est à 3h.
Je regarderai quand même.
Non, mais...
Moi aussi.
Bah, quand il y a le Brésil qui joue, tu as toujours envie de regarder le foot.
Non, mais je crois que voilà, ils ont le marché entre les mains. Ce n'est pas la même chose de jouer l'Uruguay que le Panama. Donc,
Le canal est plus ouvert.
Ils montent en régime. Panama. Je pense que c'était beaucoup mieux contre le Paraguay.
C'est une sacrée carotte, en tout cas, une motivation.
Voilà, c'est plus qu'une carotte.
Il va remettre la même équipe. Je trouve que ça a bien fonctionné sur le match d'avant. Et moi, je pense qu'on peut leur faire confiance avec peut-être un Vinicius qui fera encore beaucoup de différence. Donc moi, c'est une équipe qui a une bonne assise, notamment derrière. Ah, voilà, avec une bonne charnière centrale, Militao, Marquinhos, ça marche bien. Ouais. Lisson dans les buts. Je trouve qu'il y a beaucoup de complémentarité, même au milieu de terrain.
Après, les latéraux, il y a quand même une baisse de
ça
niveau par
pas,
rapport
franchement, à... Franchement, c'est des défenseurs...
Tu vois, c'est souvent des 1 contre 1, ça dédouble pas.
Ça monte pas.
C'est... Danilo, c'est pas, c'est pas
Danilo,
si mal.
C'est un central, en fait.
Ouais, mais ça se fait beaucoup, regarde.
On est loin des Cafu, Roberto Carlos, Daniel Alves, Silvinho...
Tu vas loin.
Cafu qui a prédit quand même une victoire finale du Brésil. Dans cette
face à l'Uruguay, ça... Moi, cet Uruguay... Je crois que c'est l'équipe qui m'a le plus impressionné depuis le début du tournoi. C'est franchement ce qu'elle fait, cette équipe de Marcelo Bielsa, avec ses deux joueurs au milieu, Freddy Valverde et Ugarte, qui ratissent tous les ballons. Ils sont tout le temps là, ils ne sont jamais fatigués. En plus, l'attaquant de Liverpool.
Darwin Núñez.
Moi, j'ai l'impression qu'il y a un Darwin.
C'est l'évolution de Darwin totalement.
Exactement. Je suis d'accord avec toi.
Allez, boum.
C'est bon, on l'a.
On met en boîte. Non, mais c'est vrai, il est incroyable dans ce qu'il propose.
Oh là là.
Et que tu parles de Ugarte, ça me fait plaisir que tu en parles. J'espère que Luis Enrique regarde un peu ce qui se passe.
Non, franchement, il est
dans cette
énorme.
Copa América, puisque c'est un joueur qui a été écarté quand même au Paris Saint-Germain ces derniers mois et qui a forcément énormément de talent. Et je pense qu'il a beaucoup manqué dans la saison du Paris Saint-Germain déjà l'année dernière.
Après, c'est la Grinta de l'Uruguay qui est toujours présente. Avec le beau jeu, c'est une révolution du côté de l'Uruguay. Oui. Je ne dis pas qu'il jouait mal.
Mais c'est ce qu'il voulait, en tout cas. C'est-à-dire une évolution du jeu. Et après les années de Tabaré Vázquez, il y avait besoin d'autres choses. Ouais. Et miser sur Bielsa, c'était quelque chose. En tout cas, pour l'instant, les Uruguayens sont aux anges. Ils sont heureux de voir jouer leur sélection.
Mais je ne sais pas si tu as vu De La Cruz, ce joueur de
faux neuf, je l'ai vu.
Magnifique joueur, franchement. Moi, c'est l'équipe qui me séduit le plus depuis le début.
Est-ce qu'ils vont aller au bout maintenant ? C'est une autre histoire.
On va regarder que les quarts de finale de la Copa América et on va moins regarder l'Euro, c'est ça. Bon, en
on
tout cas,
l'Euro quand même.
Il y a quand même un deuxième, il y a quand même un deuxième deux, match ouais, dans ce groupe et ça sera Costa Rica et Paraguay qui sont.
Il faudra un miracle pour que le Costa Rica peut encore se qualifier.
Oui, oui, encore,
il faudrait
oui,
que le Brésil perde contre la Colombie par 2 ou 3 buts d'écart et que le Costa Rica gagne de son côté pour passer devant le Brésil.
Parce que la différence de but,
on n'y est pas.
Du mal à y croire.
Et donc les affiches des quarts de finale, même s'il y en a deux encore à définir, mais en tout cas on a Argentine-Équateur, Venezuela-Canada. Donc X contre Panama et Uruguay contre Y. Mmh. Mais alors une remarque dans ces équipes, messieurs, j'imagine que ça ne va pas vous échapper. Yoro, les futurs organisateurs de la Coupe du Monde 2026, ils sont 3. Eh bien, les États-Unis et le Mexique ont été déjà éliminés dès le premier tour. Il reste le Canada et Panama pour ce qui est de la CONMEBOL.
Mais Panama, ils sont qualifiés quand même. Sans les Valdés en plus.
On peut leur tirer notre chapeau à Panama.
Est-ce que ça vous étonne que... Parce qu'on imagine que les États-Unis et le Mexique sont prêts pour
surtout le Mexique, quoi. Le Mexique est un pays de foot. Les États-Unis, un peu moins. Moi, aujourd'hui, quand je vois le Mexique sortir...
Il n'y a rien au Mexique.
C'est exactement ça.
Il y a vraiment... Il y a un creux générationnel incroyable.
Et justement sur le Mexique, le porte-parole de la fédération, enfin le directeur sportif Duilio Davino, a expliqué que le sélectionneur était maintenu.
Sí, no, lo que quería comentar es que salí con Jaime ahí en la conferencia de prensa, pero bueno, por las reglas de CONMEBOL.
Ce qu'il dit le président de la fédération, c'est nous, il peut avoir tout notre soutien, Jaime Lozano, et on va continuer à travailler avec lui. Il a tout notre soutien et on le maintient. Est-ce que c'est une bonne politique, Yoro, de continuer Lozano, ancien international mexicain, hein, qui a disputé des Coupes du Monde.
Très bon joueur, il était. Mais bon, est-ce qu'il est un bon entraîneur? Je ne sais pas. Mais de toute façon, on est à... voire 2 années de cette Coupe du Monde. Donc, changer pour changer, je crois que la solution, c'est d'essayer de travailler dans la durée. De toute façon, ils sont qualifiés
d'office. Ils n'ont pas le choix.
Ils n'ont pas le choix. Il faut le garder, essayer peut-être d'étoffer et de structurer leur championnat qui est en perte de visite aussi.
Ouais, parce que là, ils ont marqué 1 but en 3 matchs. Alors, c'est pas si c'est un hommage à l'équipe de France, mais l'équipe de France, elle, au moins, elle se qualifie. Là, ils ont marqué 1 but. Ils ont perdu contre le Venezuela. Bon, c'est vrai que c'est
trop
peu.
On est en attente d'un nouveau Mexique, quoi.
Voilà. On va se quitter là-dessus, non?
Non, mais on va parler des Américains, non?
Pas encore. Oui, bah, avec les
plaisir,
États-Unis.
Je les ai bien suivis. Donc je
les États-Unis.
Bah, les États-Unis, leur tournoi, il tourne en fait sur l'expulsion de Timothée Weah contre le Panama.
Exactement.
Alors, ça ne doit pas.
Assez tôt dans le match.
Ça n'explique pas tout, mais ça les fait dérailler dans la compétition puisqu'ils battent la Bolivie. Ils jouent le Panama. Face au Panama, à la 19e minute, il craque émotionnellement le jeune Timothée Weah. J'espère que ça va lui mettre du plomb à la tête. Il se fait expulser. Derrière, ils sont menés, mais le Panama réussit à revenir 2 fois. C'est plutôt une bonne équipe. Ensuite, c'est une génération assez jeune. C'est la meilleure génération de l'histoire des États-Unis. Alors, c'est des joueurs intermédiaires plus. Ils jouent pas dans les super top clubs européens. Ils jouent tous en Europe. C'est le choix du sélectionneur. D'ailleurs, c'est très critiqué aux États-Unis parce qu'ils espèrent voir quand même des talents de MLS.
Ben oui.
Et d'ailleurs, il y en a dans l'équipe du Canada des talents de MLS. Et puis, ce troisième match face à l'Uruguay, ils ont pas géré la pression. J'ai senti qu'ils n'avaient pas géré la pression. Et eux, c'est pareil. Le sélectionneur, ça fait 4 ans qu'il est là, donc ils peuvent continuer avec ce sélectionneur-là qui les connaît parfaitement. Ou alors, il faut aller chercher un grand nom européen.
Ouais, parce que Weah se fait expulser très tôt dans la partie. Ouais. Mais quand tu regardes leur attaque, Pulisic, Balogun, Weah, c'est quand même pas mal, c'est assez jeune.
Même au milieu,
même
Moussa,
hein.
Makeni, Moussa, c'est quand même...
Ils ont un latéral gauche qui est très bon, Robinson, qui joue du côté de Fulham. Donc, il y a de la qualité.
Ouais,
c'est
la
un
qualité.
Peu une surprise qu'ils soient, eux, éliminés. Le Mexique, c'était un peu plus attendu.
Ouais, et puis, c'est le pays hôte, surtout. Donc, on
c'est
se
un peu
dit
gênant,
pour
quoi.
La fête. Ouais. Une dernière nouvelle, et je voulais vous la donner, parce que j'ai trouvé ça intéressant. Le 19 novembre, au Brésil, eh bien, ça sera désormais la journée du roi Pelé. Une loi a été signée et promulguée aujourd'hui par le président Lula. Et c'est en hommage, évidemment, à celui que tous considèrent comme le meilleur footballeur, en tout cas au Brésil, de tous les temps. Alors, pourquoi le 19 novembre? Ce n'est ni sa date de naissance, qui était le 29, le 23
match.
Octobre, ni le 29 décembre.
Son millième match.
Millième but.
Millième but.
Ah.
Millième
bien
but.
Joué,
très bien joué. C'était le 19 novembre 1969 dans le stade du Maracana. On y revient. On a commencé par le Maracana. On finit avec Pelé qui avait inscrit son, le millième de ses 1283 buts de sa carrière. Bon, il les a tous comptés, hein, parce qu'on se souvient.
Il y a Romario aussi qui les comptait avec
attention. Il avait 29 ans et c'était un an avant sa troisième Coupe du Monde, celle de 1970. Eh ben, Mexique, on y revient ouais. aussi.
Il est là le meilleur joueur de l'histoire.
Ouais. C'est la fin de ce Radio Foot International. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été si vifs encore à cette heure tardive. Et on se retrouve demain, les amis. Merci à tous.